Yes, Winnie l'ourson, et à très bientôt sur Radio J.
Merci, au revoir.
Radio J, le 6-9, Lena Ferradio.
Il est 7h, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous, nous sommes le jeudi 25 avril 2024, nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme chaque matin, 202e jour de guerre contre le Hamas et toujours ne les oublions pas, 133 otages dans la bande de Gaza.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
Et à Jérusalem, nous sommes en direct à présent avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov, et on parle ce matin pour commencer de cette guerre psychologique du Hamas qui continue avec l'organisation terroriste qui publie la vidéo d'un nouvel otage israélien.
Oui, en effet, hier soir, le Hamas a publié une vidéo mettant en scène l'otage Hirsch Goldberg Pauline, offrant ainsi le premier signe de vie du jeune homme depuis le 7 octobre. Cette date, il avait perdu un bras lorsqu'une grenade avait été lancée dans l'abri où il se trouvait. La vidéo non relayée par les médias israéliens pour éviter justement de participer à la guerre psychologique du Hamas montre la main gauche amputée de Hirsch alors qu'il récite un texte dicté par l'organisation terroriste. Dans ce message, il condamne le leadership israélien d'avoir oublié tous les otages israéliens.
Et la famille de Hirsch, justement Olivier, a réagi à cette vidéo.
Voir la vidéo de Hirsch aujourd'hui est incroyable. Nous sommes soulagés de le voir en vie, mais nous sommes également préoccupés par sa santé et son bien-être, ainsi que par la santé de tous les autres otages. Nous sommes ici aujourd'hui avec une prière pour tous les dirigeants des partis qui ont mené des négociations jusqu'à présent. Soyez courageux, profitez de ce moment et concluez un accord pour nous unir avec tous nos proches, mettre fin à la souffrance dans cette région, a déclaré le père du jeune otage. Et la maman de Hirsch a ajouté: Hirsch, nous avons entendu ta voix aujourd'hui pour la première fois depuis 201 jours. Et si tu peux nous entendre, nous te disons, nous t'aimons, sois fort et survie.
Après la publication de cette vidéo, en tout cas, des manifestations à Jérusalem ont dégénéré, Olivier, apparemment en émeute avec la police.
Oui, des centaines de personnes s'étaient réunies rue Aza à Jérusalem pour appeler à la libération des otages après la publication par le Hamas de la vidéo de Hirsch. Des manifestants ont mis le feu à des poubelles, lancé des feux d'artifice, ils ont allumé des braisées au milieu de la route et des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre qui tentaient de les empêcher d'approcher de la résidence du Premier ministre. La police a procédé à l'interpellation de 3 personnes parmi les manifestants.
Et dans le reste de l'actualité, le cabinet de la Défense doit se réunir aujourd'hui pour débattre de la suite des opérations militaires dans la bande de Gaza.
Et la perspective d'une opération Rafah sera au centre des discussions lors de cette réunion qui se tiendra cet après-midi à Jérusalem. Le cabinet ne sera pas sollicité pour prendre des décisions car il a déjà validé en fait les étapes de l'opération militaire et a délégué au cabinet de guerre de pouvoir déterminer le calendrier, y compris celui de la reprise des hostilités. Jusqu'à présent, le niveau politique n'a pas donné son aval à l'armée pour amorcer l'évacuation de la population en prévision de l'opération militaire.
Et dans ce contexte, le chef de l'état-major et le chef des services de renseignement se sont rendus au Caire.
Et c'est dans le cadre de la coordination avec l'Égypte en vue de l'opération Rafah, justement. En attendant, Israël est également appelé à poursuivre aussi la coordination avec les États-Unis. Parallèlement, des tentatives sont en cours pour relancer les pourparlers en vue d'un nouvel accord avec le Hamas. Si ces tentatives réussissent, l'opération militaire à Rafah pourrait être reportée.
Et dans le reste de l'actualité, Tsahal qui a riposté à des tirs du Hezbollah sur des villes du nord d'Israël, Olivier.
Après des tirs de roquettes dans la matinée sur la Galilée occidentale, l'armée de l'air israélienne a riposté en attaquant plusieurs cibles au sud Liban et a détruit les postes de lancement à partir desquels les attaques avaient été effectuées par des terroristes sur le nord d'Israël. L'information a été communiquée par le porte-parole de Tsahal et lors de cette intervention, des avions de combat de Tsahal ont bombardé aussi des infrastructures supplémentaires dans plusieurs bastions terroristes du Hezbollah, dont un bâtiment militaire où se trouvaient des terroristes.
Malgré la tension sécuritaire, les Israéliens n'ont pas réduit par ailleurs leurs dépenses à la veille de Pessah. Au contraire, Olivier, elles ont augmenté.
Oui, d'après un rapport d'un site d'information, au cours de la journée de lundi, c'est-à-dire la veille du premier jour de fête, entre 8h et 14h, ils ont dépensé au total 735 millions de shekels avec leur carte de crédit. Cela représente une hausse de 14% des dépenses par rapport aux heures correspondant à la veille de Pessah de l'an dernier. Ces chiffres sont dus à d'autres. Plus important d'Israéliens qui sont restés en Israël cette année.
Merci beaucoup Olivier Granilic, merci d'être avec nous comme chaque matin. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Et avant de retrouver Arié Bensemoun, un point sur la météo. Ce matin, ce jeudi, le temps est très frais, parfois brumeux sur l'Hexagone. On note encore des gelées au sol sur les régions centrales. Météo instable et humide également au sud avec beaucoup de vent. À Paris, seulement 2 degrés ce matin, 14 dans l'après-midi. Il fera 18 à Marseille, le maximum. Et puis en Israël, en revanche, de plus en plus chaud. Des températures caniculaires, 36 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv, 41 à Eilat.
Hélène Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur Radio J, comme chaque semaine, comme chaque matin. Et le jeudi matin, c'est la chronique du directeur exécutif du groupe Elnet France, Arié Bensemoun, en direct d'Israël. Bonjour Arié.
Bonjour Ilana.
Alors cette semaine, Arié, vous souhaitiez revenir, après ces deux soirs de fête en France, sur le rapport Colonna concernant l'UNRWA qui a été rendu public lundi soir.
Oui, Ilana, le 5 février dernier, on s'en souvient, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait annoncé la création d'un audit pour évaluer la neutralité de son agence pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, à la suite d'un énième rapport israélien accablant. Au moins 12 employés de l'UNRWA ont participé au massacre du 7 octobre. 10% de son personnel milite pour des groupes terroristes. La moitié de ses employés ont au moins un terroriste dans leur famille. Des milliers d'enseignants ont célébré le pogrom sur des groupes de discussion. Un centre de commandement du Hamas a été découvert sous le siège de l'agence à Gaza, etc., etc., etc. La liste est encore très longue. Le rapport de l'audit rendu public le 22 avril était supposé examiner cette collusion avec le terrorisme palestinien, du moins officiellement, car dans les faits, la réalité est tout autre.
Alors que nous apprend justement ce rapport, Arié ?
Eh bien, s'il y a une chose à retenir de ce rapport, Ilana, c'est qu'Israël aura beau tout faire pour alerter et documenter l'infiltration du terrorisme palestinien au sein de l'UNRWA, ça ne sera jamais assez. Des milliers d'images, de vidéos, d'enregistrements, de captures d'écran, des années et des années de preuves accumulées ne sont pas suffisants pour établir un lien entre l'agence onusienne et le Hamas, selon du moins le rapport de l'audit. Pire, il stipule même qu'Israël n'a pas encore fourni les preuves nécessaires et suffisantes, on croit rêver. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, le ministère israélien des Affaires de la Diaspora a encore publié un rapport détaillant l'identité des employés de l'UNRWA ayant participé au massacre. Ce qui est encore plus risible, si on peut le dire comme ça, c'est que ce rapport reconnaît, je mets des guillemets partout, des problèmes de neutralité, reconnaît des insuffisances, reconnaît des contenus problématiques dans les livres scolaires, reconnaît toute une série de problèmes, mais il les minimise complètement et affirme que l'UNRWA dispose, écoutez bien, du cadre le plus solide parmi les agences onusiennes. Le rapport ose même affirmer que l'UNRWA manque de personnel, et oui, manque de personnel, comme si les plus de 32 000 employés déjà en poste pour gérer les soi-disant 5,9 millions de réfugiés n'étaient pas déjà de trop, surtout quand l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, dispose de deux fois moins de personnel pour gérer 100 millions deux personnes de plus, c'est tout simplement ridicule. Au final, la cinquantaine de recommandations proposées par le rapport est dérisoire, compte tenu de la gravité et de l'ampleur du problème. Et ce rapport conclut même que l'UNRWA est, je le cite, indispensable et irremplaçable et que la communauté internationale devrait davantage la soutenir. On continue comme si de rien n'était, c'est tout simplement lunaire.
Alors quel était le véritable objectif de l'audit et de ce rapport selon vous, Arié ?
Eh bien, alors, certainement pas de rétablir la vérité, ça c'est certain. Dès le départ, tout était faussé par le choix des personnes chargées de mener l'audit. Déjà, la nomination de Catherine Colonna à la tête de ce groupe pose question. Comment une personne qui a publiquement soutenu l'UNRWA pendant près de 2 ans en tant que ministre des Affaires étrangères française, allant jusqu'à la qualifier, je cite, de plus utile que jamais après tous les scandales, pourrait-elle se renier? Et puis, que dire des trois instituts de recherche supposés examiner cette agence, l'UNRWA, l'enquête du UNWatch à leur sujet est saisissante. Tous soutiennent ouvertement l'action de l'UNRWA. Tous ont un fort biais anti-Israël, au point de parler de nettoyage ethnique, d'apartheid, de génocide, voire même d'être directement en lien avec des terroristes palestiniens. Comment ce rapport aurait-il pu être impartial et juste? Il n'avait qu'un but, rassurer les pays donateurs pour que les financements continuent.
Alors, en conclusion, Arié, comment vous voyez les choses, vous?
Les choses sont assez simples, malheureusement. Ils ont sacrifié la vérité pour sauver l'UNRWA, c'est un totem, en fermant les yeux sur la construction d'une forteresse militaire sous leurs pieds, en acceptant le détournement systématique des ressources destinées aux civils par le Hamas, en recrutant des terroristes, en endoctrinant les enfants à la haine des Juifs et d'Israël dans ces écoles. L'UNRWA à sa part de responsabilité, et non des moindres, dans ce crime contre l'humanité qu'a été le 7 octobre. Face à l'ampleur de cette faillite, la moindre des choses serait que son chef, Philippe Lazzarini, prenne ses responsabilités et démissionne. Non, même pas ça. Il devra suivre une véritable enquête approfondie sur la culpabilité et de l'UNRWA, et la justice devra être rendue. On l'attend, on l'espère. Cette agence onusienne est une aberration anachronique qui n'a plus de raison d'être. Son démantèlement sera le premier pas vers, nous l'espérons, une paix durable.
Eh bien, merci beaucoup, Arié Ben Semoun. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine. Alors, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et bonne fête à tous.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins. Et le jeudi à 7h10, vous le savez, nous retrouvons Jean-François Strouf et sa chronique Israël et environnement. Bonjour Jean-François.
Bonjour Ilana.
Alors ce matin, Jean-François, vous souhaitiez nous parler de mini-melons. C'est très mignon ça, les mini-melons, Jean-François.
Oui, ce petit melon va rendre désuète une expression française. Choper le melon, c'est attraper la grosse tête. C'est dire l'image qu'a cette cucurbitacée dans l'inconscient collectif de nos concitoyens. Imaginez maintenant un melon dont la taille miniature vous permet de le tenir dans votre main et de le manger en entier en une seule fois. C'est exactement ce que les scientifiques israéliens du Volcan Institute, une prestigieuse organisation israélienne de recherche agricole, ont développé.
Mais à quoi peut servir la réduction de la taille d'un melon, Jean-François?
La petite taille de ce nouveau type de melon signifie que chaque fruit constitue une portion individuelle, éliminant ainsi le besoin de conserver une grande partie du fruit pour plus tard ou même de le jeter.
C'est vrai que c'est une bonne idée. Comment en est-on arrivé à découvrir ces mini-melons?
Les scientifiques ont utilisé une mutation de melon qui produit plusieurs petits fruits au lieu de quelques gros. Le croisement du fruit mutant avec différentes races de melons a créé un effet similaire dans tous les types testés. L'analyse génétique a montré que ce trait est régi par un seul gène que les chercheurs ont nommé superfruiter, le super fruitier. Le gène mutant a été identifié et cloné. Sa fonction et son mécanisme d'action ont été exposés. Le gène et ses effets ont également été brevetés dans le monde entier.
Et j'imagine que superfruiter n'est pas resté que le nom du gène, Jean-François.
En effet, cette découverte a conduit à la création de la start-up Superfruiter, qui a commencé à travailler sur le développement de produits basés sur le gène du même nom.
Comment le public a réagi? Est-ce que cela a rencontré les attentes du public?
Oui, il existe une vraie demande pour des fruits plus petits sur les marchés modernes, de préférence sous forme de portions individuelles, indique l'entreprise. Lorsque cela avait déjà été essayé avec le melon, une diminution de la taille des fruits entraînait une diminution du rendement, mais la technologie génétique Superfruiter a multiplié par 5 le rendement des fruits, bien que les fruits soient 3 fois plus petits que la taille moyenne, c'est dire l'efficacité du système.
Est-ce qu'on peut imaginer un super destin pour Superfruiter du type de celui, par exemple, des tomates cerises en Israël?
Eh oui, super Ilana. Superfruiter a pu produire ses petits fruits de manière économique et de haute qualité. La start-up a déjà créé des versions plus petites de différents types de melons, dont un qu'on appelle le Yellow Canary ou l'autre qu'on appelle El Piel de Sapo, dont certains sont déjà testés de manière semi-commerciale dans le monde entier.
Eh bien, merci beaucoup, super Jean-François, qu'on retrouve la semaine prochaine sur Radio J. Comme chaque semaine, à la semaine prochaine et Chag Sameach.
Avec plaisir, Ilana.
Radio J, le 6-9. le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
7h15, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. Le 202e jour de guerre contre le Hamas et le groupe terroriste qui a publié la vidéo d'un otage, celle de Hersh Goldberg. Pauline, le jeune israélo-américain, y apparaît pâle, amaigri et sa main semble même amputée. Dans un message vraisemblablement dicté par le Hamas, il demande au gouvernement israélien de le ramener chez lui. Son cri, c'est celui de tous les otages, a commenté sa famille. Sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah hier avec des tirs de roquettes. Tzahal a riposté sur 40 cibles du Hezbollah. La moitié des commandants du groupe terroriste a été éliminée. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Sur le front sud, le chef d'état-major de Tzahal et celui du Shin Bet se sont rendus en Égypte hier à propos de la prochaine opération contre le Hamas à Rafah, au Caire. Le général Herzi Halevi et Ronen Bar ont rencontré le chef des renseignements et d'autres responsables égyptiens. La loi d'aide des États-Unis à ses alliés promulguée hier après son vote au Sénat, 17 milliards de dollars alloués à Israël et 9 milliards à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères israélien a remercié le président américain sur la totalité de cette enveloppe de 95 milliards. Il y a aussi des aides à Taïwan face à la Chine et à l'Ukraine. Kiev, qui commencera à recevoir de nouvelles armes dans les prochains jours, a annoncé le locataire de la Maison Blanche. En France, la police a délogé dans la nuit des étudiants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes dans la cour de Sciences Po Paris sur le modèle des facs américaines. Ils réclamaient que Sciences Po coupe ses liens avec les universités qu'ils considèrent comme complices de ce qu'ils appellent le génocide à Gaza. En France, une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroristes après l'arrestation d'un mineur de 16 ans en Haute-Savoie, suspecté d'avoir voulu commettre un attentat djihadiste pendant les JO de Paris.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva qu'on retrouve chaque matin sur cette antenne. Prochain rendez-vous avec l'actualité avec vous, ce sera à 8h, 7h30, la revue de la presse israélienne.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Et ne bougez pas, dans quelques instants, à partir de 7h20, Oudy Bloch, avocat vice-président de l'OJE, sera avec nous pour revenir sur une affaire d'antisémitisme que l'OJE a plaidé justement. À suivre, l'humour avec Annabelle Nakache et l'invité de Christophe Barbier. Et justement, on est avec le vice-président de l'OJE dans quelques instants. Nous serons également avec Christophe Barbier, Muriel Waknin-Melki, avocate et présidente de l'OJE, pour évoquer toutes les affaires plaidées ces dernières semaines.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Et vous connaissez sûrement, vous reconnaissez ce générique, c'est celui de Friends. Et oui, la série de notre enfance, la série des années 90. Et je vous en parle ce matin parce que David Schwimmer, l'acteur qui joue Ross, et oui, Ross et Rachel, vous connaissez, vous aimez Friends, Eva ?
J'étais fan.
Ah, vous êtes fan ? Eh ben oui, comme moi. Eh bien, David Schwimmer, qui a élevé sa voix et qui a condamné l'antisémitisme sur les campus américains. Effectivement, il a sonné, il a tiré la sonnette d'alarme, comme on dit, David alias Ross, dans un post Instagram publié hier. Il a décrit effectivement le climat pour les étudiants juifs et leur a apporté son soutien. La star de Friends qui a appelé à soutenir les juifs s'il s'agissait d'un autre groupe minoritaire. La réaction aurait été l'indignation et la réaction immédiate, je cite, action, s'il vous plaît, montrez votre soutien à vos amis juifs. Voilà ce que dit David, effectivement, qui d'ailleurs depuis 7 octobre a pris la parole sur ce qui se passe. Pourquoi tant de personnes refusent-elles de croire que le Hamas a commis des viols? C'est ce qu'avait déclaré l'acteur américain qui défend donc les Israéliens par rapport à ce qui se passe en Israël, qui prend la parole et qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, nier que cela s'est produit est un moyen pratique d'éviter la compassion et la responsabilité personnelle. Voilà ce que dit David Schwimmer. Donc on souhaitait lui dire merci ce matin à David.
Oui, et c'était le petit copain de Rachel.
De Rachel.
Qui était tout maladroit au début.
Rachel Geller.
Ouais.
Rachel, non, c'est pas Rachel, Rachel Green.
Rachel Green.
Qui est devenue Geller après,
ouais,
effectivement.
Avec sa super coupe de cheveux qu'on voulait tout avoir.
En tout cas, eh bien, merci David. Merci Eva. Donc Eva qu'on retrouve tout à l'heure sur Radio J. Et tout de suite, c'est la chronique de l'OJE.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Radio J.
Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes à présent en direct avec Oudi Bloch, avocat vice-président de l'Organisation juive européenne. Bonjour Oudi. Ah, je ne vous entends pas. Alors attendez. Bonjour Oudi, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends très bien.
Ah bah je vous entends, je vous entends. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors cette semaine, Oudi, vous avez plaidé devant le tribunal correctionnel de Paris en soutien justement d'un jeune juif qui a été agressé à la sortie de son école.
Absolument, avec ma consoeur Muriel Wapnin-Melki, nous avons plaidé ce dossier pour un jeune étudiant juif qui s'est fait casser le nez à quelques mètres de son école par un individu qu'il avait déjà croisé à plusieurs reprises dans un café qui jouxte cette école et qu'il avait déjà entendu tenir des propos antisémites concernant le conflit à Gaza.
Et pourtant, la circonstance aggravante d'antisémitisme n'a pas été retenue dans la prévention, hein.
Non, mais comme cela a été rappelé par le président du tribunal qui a remarquablement instruit ce dossier à l'audience, le parquet qui avait ouvert la procédure avec la circonstance aggravante d'antisémitisme et qui finalement l'a écartée, aurait parfaitement pu la maintenir. Parce qu'il y avait dans ce dossier un antisémitisme d'atmosphère, pour reprendre l'expression de Gilles Kepel sur le djihadisme d'atmosphère. Tous les matins, quasiment, au mois d'octobre, ce jeune homme allait prendre son café dans cet établissement et en profitait pour téléphoner à ses amis en Israël et prendre de leurs nouvelles. Et les regards qui se tournaient vers lui étaient de plus en plus agressifs. Et c'est dans ce contexte que les propos antisémites de l'agresseur ont été tenus. S'ajoutait à cela le fait que la victime portait une bague avec une magaine David, qu'une de ses amies avait également entendu de la part du même homme des propos antisémites, que les identifiants de l'agresseur sur les réseaux sociaux, comme certains de ses messages, faisaient référence à Gaza, à la Palestine, et que lors de l'agression, la victime l'a entendu lui dire « Ne reviens pas, je sais qui tu es, je sais ce que tu es », tout cela a créé une atmosphère d'antisémitisme qui, en opportunité, n'a pas été retenue par le parquet pour qu'il ait des éléments permettant de lier directement l'antisémitisme à l'agression physique. Mais cette atmosphère d'antisémitisme n'avait pas échappé au président du tribunal.
Et bien sûr, l'agresseur Oudi a nié tout antisémitisme de sa part.
Oui, et sans surprise évidemment, cette agression qui ne concernait pas seulement notre client, puisque d'autres étudiants non-juifs ont été agressés, mais notre client a été le seul à se constituer partie civile faisant preuve d'un grand courage. Cette agression est partie d'un fait banal, d'une discussion de café, qui a déclenché chez l'agresseur non seulement des insultes sexistes extrêmement humiliantes à l'encontre d'une jeune fille qui était présente, mais également des violences physiques tout à fait disproportionnées. Et comme tous les hommes qui insultent et agressent les femmes, en projetant sur elles leurs fantasmes sexuels, et qui tiennent des propos racistes, au cas particulier antisémites, eh bien, l'agresseur était un menteur et un lâche. Il a nié les insultes sexistes, il a nié avoir porté des coups alors que plusieurs témoins ont affirmé le contraire, et bien sûr, il a nié tout antisémitisme de sa part. Alors, nous avons réfléchi à l'audience à solliciter une requalification des poursuites pour inclure la circonstance aggravante d'antisémitisme, mais cela aurait entraîné un renvoi d'audience, un allongement de la procédure, des mois d'attente pour notre client qui avait besoin de tourner cette page. Et puis, il nous a semblé qu'une sanction immédiate et forte aurait plus d'impact.
Et donc il a été condamné, hein, cet agresseur.
Il a été condamné avec des peines qui sont allées au-delà des réquisitions du parquet, qui pourtant avaient été tout à fait à la hauteur des enjeux de cette audience, tout comme le président du tribunal, en rappelant que ce type d'individus ne peuvent pas s'arroger un territoire et décider qui vient ou qui ne vient pas, qui a le droit de parler ou qui a le droit de se taire, qui a le droit de consommer et qui n'a pas le droit. L'agresseur est donc reparti avec 2 ans de prison, dont 1 an ferme et 1 an avec un sursis probatoire accompagné de nombreuses mesures contraignantes. C'est une très bonne décision. Mais au-delà de ça, cette agression vient nous rappeler la nécessité pour les Juifs d'apprendre à se défendre physiquement. Cela fait des années que nous le disons à l'OJE, mais avec une augmentation de 1000% des actes antisémites depuis le 7 octobre, c'est véritablement devenu indispensable. Alors la question n'est pas de savoir s'il est dangereux, normal ou audacieux pour un juif de s'attabler à un café et parler librement au téléphone d'Israël au risque de se faire agresser. Ce risque est là, nous le savons tous. Il faut désormais savoir se défendre et pas seulement devant les tribunaux.
Eh bien, merci beaucoup, Oudy Bloch, avocat vice-président de l'OJE, et bravo, effectivement, pour cette condamnation. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci.
Merci, Dana.
Et vous restez avec nous dans quelques instants, le Zoom Israël de Pascal Zonstein, effectivement, comme chaque matin, à suivre la revue de la presse israélienne également avec les studios Kalita. Nous étions, il y a quelques secondes, avec Oudy Bloch, avocat vice-président de l'OJE, et justement, nous serons avec la présidente de l'Organisation juive européenne tout à l'heure à partir de 7h45 au micro de Christophe Barbier qui reviendra sur toutes les affaires plaidées ces dernières semaines. L'OJE qui fait un travail exceptionnel effectivement contre l'antisémitisme. On en parlera sur Radio J et on parle d'antisémitisme. J'en profite pour vous donner un autre rendez-vous tout à l'heure à partir de 8h30. Notre invité sera le journaliste et ancien correspondant aux États-Unis David Benaïm. Il a été correspondant effectivement aux États-Unis pendant plus de 20 ans. Il reviendra sur ce qui se passe notamment à l'université Columbia et un phénomène qui prend de l'ampleur également dans le reste du pays et même au Mexique. On en parlera avec David tout à l'heure à 8h30.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J. Radio J. Zoom Israël. Pascal Zonstein.
Radio J.
Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondante Pascal Zonstein. Et Pascal, ce matin, on reparle d'une opération de Tsahal à Rafah qui semble cette fois imminente, mais qui comporterait un certain nombre d'enjeux stratégiques. Alors qu'en est-il exactement, Pascal ?
Oui, après avoir été remisé durant de longues semaines, il semble maintenant que l'opération à Rafah soit imminente. D'abord parce qu'un premier obstacle paraît avoir été levé, celui de l'opposition des États-Unis. Après l'attaque de l'Iran contre Israël le 13 avril et la riposte ciblée et limitée lancée par Israël 6 jours plus tard, l'administration Biden a été rassurée par la réponse mesurée d'Israël qui a écarté pour un temps les risques d'un embrasement régional. Ce faisant, il devient possible de se recentrer sur les fronts locaux et en particulier sur celui de Gaza. Israël tient à mener à son terme son offensive contre le Hamas qui doit conduire au démantèlement de toutes ses capacités militaires. Et on sait que dans la ville la plus au sud de la bande de Gaza, le Hamas dispose toujours de 4 bataillons qui tiennent la ville et protègent les principaux chefs de l'organisation. Tsahal a déjà rappelé 2 brigades de réservistes et a eu le temps de remettre en état la quasi-totalité de son équipement, notamment ses blindés, après 5 mois de combats ininterrompus dans la bande de Gaza. Hier, le chef d'état-major de Tsahal et le patron du Shin Bet étaient au Caire pour discuter des modalités de l'opération avec le chef des services de renseignement égyptiens. On sait que l'Égypte redoute qu'une offensive israélienne n'entraîne un mouvement de fuite massif vers le Sinaï de la population palestinienne, alors que près d'1 400 000 Gazaouis se sont réfugiés à Rafah depuis le début de la guerre. Les plans opérationnels de Tsahal sont prêts, en particulier en ce qui concerne l'évacuation des civils hors des futures zones de combat. Dans un premier temps, Tsahal encadrera l'évacuation de plusieurs milliers de personnes plus au nord, dans des camps de toile, avec à proximité des hôpitaux de campagne fournis par l'Égypte et par les Émirats en coordination avec Israël. Les plans ont été présentés aux dirigeants américains qui ne les ont pas repoussés et qui devraient continuer à en discuter dans les prochains jours, aussi pour s'assurer que l'aide humanitaire pourra parvenir également aux réfugiés. Il faudra compter entre 4 et 5 semaines pour mener à bien la phase d'évacuation, une fois que le feu vert sera donné. Mais dans le même temps, le Hamas se prépare évidemment, lui aussi, à l'opération israélienne. Les bataillons islamistes sont en état d'alerte et leur commandant achemine des renforts du nord de la bande de Gaza, des renforts en or, en hommes et en armement. Les routes qui seront utilisées par les forces de Tsahal sont en train d'être piégées et la défense renforcée autour des lieux de détention des otages. Car deux paramètres majeurs doivent encore déterminer le lancement de l'opération. Le premier, c'est bien sûr le sort des 133 otages israéliens. Une reprise des négociations pourrait enfin déboucher sur un accord. Dans ce cas-là, leur libération passerait avant l'offensive. Le second paramètre, c'est la dégradation sur le front nord. Si elle se dégrade encore face au Hezbollah, au point de rendre urgente une opération de Tsahal, cela repousserait l'offensive à Rafah. Dans cette guerre multifront, Israël doit constamment réévaluer ses priorités.
Merci beaucoup Pascal Sunshine pour ces précisions et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 8h pour un point encore plus complet sur l'actualité en Israël. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Le 6-9, Radio J.
Radio J. Il est 7h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous, comme tous les matins. Nous sommes le jeudi 25 avril 2024. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes, les amis. 202e jour de guerre en Israël.
Le direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem.
Et ce matin, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic pour la revue de la presse israélienne. Et ce matin, à la une, une terrible question revient, une question à laquelle devront répondre les membres du cabinet de la défense, Olivier. Opération à Rafah ou reprise des négociations en vue de la libération des otages?
Oui, c'est le titre du Yedioth Ahronot ce matin et c'est aussi le terrible dilemme auquel les membres du cabinet de la défense seront confrontés aujourd'hui. En Israël, on estime qu'une opération à Rafah sera discutée, notamment par le cabinet de la sécurité, et que cette opération accroîtra la pression sur le Hamas et favorisera les chances d'un accord. Le Yedioth Ahronot ajoute que cette semaine, de nouvelles idées ont été présentées aussi pour essayer de briser l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations. À Jérusalem, on estime qu'il est nécessaire de déplacer le centre des pourparlers du Qatar vers l'Égypte en raison de la déception quant au rôle joué par le Qatar. En effet, celui-ci n'a pas exercé de pression nécessaire sur le Hamas, n'a pas menacé d'expulser la direction du Hamas et n'a pas fermé non plus les comptes bancaires de l'organisation terroriste.
Et la presse ce matin, Olivier, revient évidemment sur la publication de cette vidéo d'un otage israélien.
Et les quotidiens parlent de cette guerre psychologique menée par le Hamas et sur les citoyens israéliens. Et c'est pour la raison, et c'est pour ne pas participer à cette guerre psychologique qu'aucun média officiel n'a publié la vidéo dans son intégralité, même s'il est possible de la trouver sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on peut voir donc Hirsch Goldberg Pauline, 21 ans, le bras amputé, qui récite un texte écrit de toute évidence par les terroristes du Hamas, dans lequel il accuse les responsables israéliens de sa détention ainsi que celle des autres otages israéliens. La date exacte de cette vidéo n'a pas été confirmée, mais elle semble avoir été enregistrée quelques jours avant Pessah. La mère de Hirsch a réagi en déclarant aux médias: Hirsch, si tu nous entends, sache que nous t'aimons et nous ne cessons de penser à toi. Tiens bon, a-t-elle ajouté.
Et puis, ce matin, dans l'actualité israélienne, la crainte de publication de mandats d'arrêt internationaux contre des dirigeants israéliens.
Oui, hier soir, la chaîne 13 qui a divulgué ces informations, et selon ces révélations, une réunion secrète s'est tenue au quartier général de la Défense pour discuter de la possibilité d'émission imminente de mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef d'état-major de Tsahal. En conséquence, une série de mesures immédiates a été décidée pour contrer cette éventualité. Parmi ces mesures figurent des appels téléphoniques entre Benjamin Netanyahu et ses homologues à travers le monde, l'exercice d'une forte pression sur le gouvernement américain et l'implication personnelle de l'ambassadeur israélien à Washington.
Et ce matin, à la une du Israel Hayom, un appel aux juifs de diaspora: revenez à la maison.
deux pages du Israël Hayom qui sont consacrées à l'antisémitisme à travers le monde. Le journal évoque une série d'actes antisémites et anti-israéliens qui sont survenus dans divers pays depuis le 7 octobre, que ce soit aux États-Unis, en Thaïlande, en Allemagne ou en France. Les exemples, malheureusement, ne manquent pas. Et Amnon Lord, le journaliste du Israël Hayom qui a mené cette enquête, fait remarquer que l'antisémitisme ne se limite plus aujourd'hui à l'extrême droite. Il se trouve également et surtout à l'extrême gauche. Selon le journaliste, les Juifs en Hongrie ou en Pologne sont plus en sécurité que dans d'autres pays européens. Mais pour le Israël Hayom, la conclusion est claire. La seule place pour les Juifs est l'État d'Israël.
Et puis ce matin, il est encore question de la situation des habitants du nord d'Israël.
Et la situation précaire, surtout des habitants du nord d'Israël, contraints de passer le Seder loin de chez eux, est évoquée par le titre du Yedioth Ahronot ce matin, une fête sous le feu. Malgré les déclarations rassurantes du ministre de la Défense, affirmant que l'objectif premier est de permettre le retour des habitants du nord dans leur foyer, une certaine désillusion commence à s'installer parmi les habitants. Outre les défis sécuritaires, le quotidien souligne aussi les répercussions économiques de cette situation. Le secteur du tourisme, vital pour de nombreuses régions du nord d'Israël, est particulièrement touché. Avec la persistance des tensions, l'industrie touristique peine à envisager une reprise, laissant les commerçants et les travailleurs du secteur dans une situation précaire et incertaine.
La presse israélienne, Olivier, se demande par ailleurs si l'application TikTok est sur le point d'être interdite en Israël.
Au cours d'une réunion tenue la semaine dernière au ministère des Affaires étrangères et dont le contenu a été rapporté au Ynet et au Yedioth Ahronot, des stratégies pour répondre aux défis posés par TikTok ont été examinées, étant donné que cette plateforme est saturée de contenu antisémite et anti-israélien. Parmi les solutions envisagées figuraient des limitations quant à l'utilisation du réseau social en Israël, voire même de son blocage si des mesures n'étaient pas prises pour renforcer la transparence et réduire les discours toxiques. Parmi les exemples de partialité de TikTok, on peut citer le refus de la plateforme de diffuser des campagnes israéliennes pour la libération des otages ou la suppression de contenus incluant les mots « Ensemble, nous vaincrons ». Et selon l'OINET, le problème réside dans le fait que la législation israélienne est obsolète et ne traite pas cette question. Par conséquent, une réglementation est jugée nécessaire devant être menée par le ministère de la Justice et le ministère des Communications.
Et puis malgré la situation, une certaine atmosphère festive, Olivier, règne en Israël avec des Israéliens qui se sont rendus hier dans les parcs et sur les plages.
Et surtout sur les plages, Ilana, en raison d'une vague de chaleur qui a commencé hier et qui va continuer aujourd'hui avec des températures particulièrement élevées dans tout le pays. 41 à 39 à Beersheba, 37 à Tibériade, 33 ce matin ici à Jérusalem. Et le Mariv nous annonce aussi que des milliers de pèlerins sont attendus aujourd'hui à Jérusalem pour la traditionnelle bénédiction des Kohanim qui se tiendra ce matin. Au côté, Chag Sameach, Ilana.
Chag Sameach également à toute l'équipe de Qualita qu'on retrouve chaque matin à 7h et 7h30 sur Radio J.
Le direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël. Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme sont la priorité du Keren Hayesod. 300 000 déplacés, une population entière traumatisée. Les besoins sont immenses. Aidons-les.
Keren-ayesod.fr.
Ensemble, nous vaincrons. Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
7h37, ne bougez pas les amis, dans quelques instants, le billet d'humour avec Annabelle Nakache. À suivre également l'invité de Christophe Barbier à partir de 7h45, Muriel Wagnin-Melki, avocate et présidente de l'OJE. Et puis à 8h30, j'en profite pour vous donner un autre invité, ce sera David Benaïm, journaliste ancien correspondant aux États-Unis. On va parler de ce qui se passe dans les universités, notamment à l'université de Columbia. Ce sera à 8h30.
Moi, je suis de ce peuple dort sans sépulture, qu'a choisi de mourir sans abdiquer sa foi.
Et sans transition, vous l'entendez, la belle voix de Charles Aznavour, Ils sont tombés. Et oui, une chanson hommage ce matin, puisque c'était hier le 24 avril, la commémoration du génocide des Arméniens, il y a 109 ans. Et oui, le 24 avril 1915, tout commence à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman. Ce jour-là, ce sont 600 notables arméniens qui seront assassinés sur ordre du gouvernement jeune turc de Talat Pacha. Premier génocide du XXe siècle qui fera environ 1,5 million de victimes. Et vous l'entendez, la belle voix de Charles Aznavour. D'ailleurs, la relation de Charles Aznavour avec les Juifs est toujours demeurée très forte. On trouve plusieurs interviews sur Internet où il en parle, Charles Aznavour, notamment dans le Canadian Jewish News. J'aime bien le peuple juif. Mon meilleur ami, le célèbre couturier Ted Lapidus, décédé en 2008, était juif. Au cinéma, j'ai joué plusieurs fois des rôles de juifs. J'ai aussi interprété la chanson Yiddish Mama. Et il ajoute, Charles Aznavour, les peuples juifs et arméniens ont beaucoup d'affinités et de points communs. Les ménages arméno-juifs tiennent très fort. Ils divorcent moins que les autres couples mixtes.
Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité.
Et je suis ravie d'être invitée à Radio J.
Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir.
Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc merci à vous.
À tout à l'heure.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Radio J. Radio J. Le 6-9. L'NF Radio.
Merci de votre fidélité. Comme chaque matin, nous sommes en direct jusqu'à 9h et vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Muriel Waknin Melki, avocate présidente de l'OJE. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour Ilana.
Bonjour Muriel, bonjour Christophe. Et sans plus tarder, nous accueillons Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que nous recevons Muriel Waknin Melki. Mom, à chaque fois qu'on vous retrouve, votre palmarès est encore plus prestigieux que la fois d'avant. L'OJE, c'est un peu le PSG des avocats, hein. Les Qataris en moins, les Juifs en plus. Et vous êtes la Mbappé de la plaidoirie. Une victoire de l'OJE, c'est un antisémite relégué en deuxième division ou en détention au mieux. Hein. Vous donnez raison à tous les antisémites hein, quand ils disent « ils sont partout ». Mais oui, vous êtes partout. Un peu comme Christophe Barbier qui a eu à Rue d'AEJ le matin, aux Grosses Têtes l'après-midi, au Théâtre le soir, sur BFM la nuit. Vous aussi, vous êtes partout, partout en France où des Juifs sont menacés. L'OJE veille et affronte les ténèbres pour faire régner le bien sur le mal. Vous venez de faire un gros strike là récemment, attaque antisémite devant une synagogue. Bim, 3 ans de prison, plainte pour apologie du terrorisme d'un délégué syndical. 1 an avec sursis, 8200 euros d'amende et politiciens au discours ambigu. Bim, convocation de Mathilde Erima. Ah, aujourd'hui pour les Juifs, quand t'as un problème, c'est aide-toi et l'OJE t'aidera. Et ça, c'est assez rassurant. D'ailleurs, à ce sujet, moi j'aimerais bien avoir votre avis sur ce commentaire laissé sur ma dernière chronique d'un amateur d'art algérien, comme il se décrit lui-même, hein, aux 21 followers. Il déclare... soignez-vous bien comme il faut, on vous prépare un festin digne de ce nom, il y a bientôt les JO, j'espère que vos athlètes ne seront pas pris en otage comme à Munich en 74, votre fin est proche. Alors, antisémite ou pas antisémite? Alors l'avantage d'être à la radio, c'est que je vous ai épargné les 22 fautes d'orthographe en 3 lignes.
Et Munich c'était 72, pas 74.
Voilà, évidemment, merci Christophe, ça... par contre quand on fait semblant d'être au taquet sur l'histoire, bah au moins on révise les dates, bah oui, c'était 72. Vous imaginez la prochaine fois, il va pouvoir m'écrire, et faites attention à vous, on va vous faire revivre la Shoah comme en 49-65. Ça va être formidable. Non mais il y a un vrai problème avec la réécriture de l'histoire d'ailleurs en ce moment hein. On a des gens qui réécrivent l'histoire de manière automatique, comme quand le texto il te réécrit ton SMS et qu'au lieu de dire je t'aime, il t'écrit je t'emmerde hein. Ah oui, on a réécrit l'histoire en disant que la Palestine existait comme état depuis toujours et que le peuple hébreu n'avait pas de légitimité. On nous a dit que Jésus était palestinien. Bientôt on va nous réécrire l'histoire de Moïse et de la libération des Hébreux alors que nous on fait Pessah depuis des millénaires. Vous imaginez si Moïse aujourd'hui il agissait avec les réseaux sociaux, et bien, qu'est-ce que ça donnerait? Attention, effets spéciaux les gars.
Ah oui, alors donc sur Radio J, ce matin, nous accueillons Moïse. Bonjour Moïse.
Laisse-moi partir. Donc, bonjour Ilana, bonjour à tous.
Alors, bienvenue Moïse, vous êtes dans la tourmente en ce moment.
Hein. Eh ouais, je suis épuisé Ilana, je viens de libérer les Hébreux de l'esclavage et je reçois un torrent de boue sur les réseaux sociaux.
Comment ça?
Et quand j'ai transformé l'eau en son, je me suis pris les écolos sur le coin de la gueule. Il y avait Sandrine Rousseau et toute sa clique. Nos eaux sont polluées, biodiversité en danger. Et ensuite, les diplés, ils ont mis ça sur le compte des réchauffements climatiques, comme si c'était de ma faute. Heureusement que j'ai envoyé des grenouilles et pas des ours polaires. T'imagines, je vous dis pas les scandales qui se refait, mais le pompon, la cerise sur le strudel, quand j'ai coupé la mer en deux et que les Égyptiens Égyptiens, ils ont été balayés par les eaux. On m'a accusé de commettre un génocide sur les Égyptiens. Vous entendez ça, un génocide? Alors qu'ils ont asservi notre peuple et qu'ils nous ont massacrés, on a fait que se défendre. Et sur les réseaux sociaux, ils ont mis le hashtag cessez-le. C'est un délire. Hein. Et là, on se dirige vers notre terre promise Israël. Dans notre projet, on l'a écrit partout Israël. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Et maintenant, ils nous disent quoi? Que c'est pas notre terre promise et qu'il y a des gens qui nous attendent avec des drapeaux palestiniens. Mais moi, les Palestiniens, je sais pas ce que c'est. J'en ai jamais vu de ma vie. J'espère que le calvaire il est bientôt fini et une fois que j'aurai livré l'étape de la loi, on sera un peu plus tranquille.
Hein. Ah bah oui, on espère. Merci Moïse. Moïse, ah oui. Portugais ce matin.
Ouais, voilà, le portugais. Oui, Moïse.
Charles Stone est enfoncé.
Voilà, c'est ça. C'était un peu Mike Brandt, mais bon, c'est pas grave. Compte là-dessus, Moïse, il mange de la matza fraîche hein, parce que 5784 ans plus tard, on n'est toujours pas sorti du désert, bien sûr. Depuis le 7 octobre, Muriel, vous êtes crevé. Hein. Vous avez énormément de boulot. Moi, je suis sûr qu'il y a un truc qui vous rassure. Vous vous dites, heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis. Ah ouais, heureusement que la laïcité et la loi française nous protègent un tantinet. Hein. Le rêve américain s'est transformé en fucking nightmare. Vous les avez vus, les teubés devant les universités, Columbia, etc. Ils répètent des slogans comme des zombies avec des masques parce qu'ils s'assument pas. Woodstock, c'était plus marrant. Hein. À ce niveau-là, faut arrêter la drogue. Ils disent aux Juifs, retourne en Pologne. Bah, moi, je suis retourné voir mes grands-parents. Ils ont habité en Pologne. Les gens sur place, ils ont voulu me faire croire qu'ils étaient là depuis toujours. Tiens, bah, ça me rappelle d'autres gens qui font pareil. Bah, on va où du coup? Bon, bref. En tout cas, Mélenchon, il voudrait peut-être les mêmes bouffons que Suzanne Sarandon hein, quand il se déplace, mais ses sympathisants à lui, ils sont pas au niveau. Hein. Enfin, allez. Pourquoi ce Bessar est différent des autres? Parce que notre peuple n'a pas été libéré et qu'après avoir célébré cette fête de la transmission toute notre vie avec notre famille, et ben finalement on est toujours en train de traverser le désert, celui de la solitude et de la bêtise. En attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup. À la belle Nakache, on vous retrouve au théâtre à Versailles ce soir au samedi 27 avril à la Royal Factory pour votre comédie. J'en ai plein le couple.
Exactement,
je
suis ravie de vous retrouver.
L'invité Christophe Barbier, l'avocate et présidente de l'OJE, Muriel Wakline Melki. Maman.
Les grands débats commencent sur Radio G.
Merci pour l'invitation.
Muriel Wakline Melki, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, même si tout le monde à l'écoute de Radio J connaît l'OJE, l'Organisation Juive Européenne, pouvez-vous nous rappeler quand même ce que font les 55 avocats, c'est cela qui travaillent sous votre présidence?
Oui. Voilà, 55 avocats, un peu plus, un peu moins, ça dépend des années. Mais là, cette année, effectivement, on est un peu au-dessus des 55. On existe depuis 10 ans, en fait. 10 ans, 10 années, on a été créé en fait, en 2014, à l'été 2014. À l'origine, ça devait être une organisation qui était là pour défendre, en fait, la communauté juive. Au lendemain des émeutes en fait anti-juives qui s'étaient déroulées rue de la Roquette à la synagogue ou à Sarcelles aussi où des magasins juifs avaient été brûlés et pillés. Et puis la première année on était 5 ou 7 avocats, pas plus. La deuxième année on a eu tellement de travail qu'on est passé à une vingtaine et puis après très rapidement on a eu notre rythme de croisière entre 40 et 50. Ça fait 10 ans qu'on lutte en fait devant toutes les juridictions en France, également devant la Cour européenne. Pour défendre toutes les personnes qui sont victimes dans leur chair d'actes antisémites, mais également pour mener ce combat contre l'haine antisémite sous toutes ses formes. L'antisémitisme d'extrême droite, l'antisémitisme d'extrême gauche, l'antisémitisme en provenance de l'islam radical. On est présent dans toutes les affaires à caractère terroriste, dans tous les dossiers qui nous ont heurtés, qui nous ont bouleversés, que ce soit l'attentat aux Aratora à Toulouse en 2012, que ce soit l'hypercachère en 2015, que ce soit l'affaire Sarah Halimi. Certaines de nos avocates ont également plaidé dans l'affaire Mireille Knoll. Le procès Copernic, plus récemment, le procès Waffenkraft aux assises des mineurs qui s'est tenu en mai dernier, l'attentat à Djerba également, dont le procès se déroulera en principe cet été à Djerba. Voilà, on est présent dans tous ces dossiers et bien évidemment depuis le 7 octobre on est encore plus présent parce qu'on lutte au quotidien contre la déferlante d'actes antisémites puisqu'on était à plus de 1000% et je crois bien au-delà en vrai. Dans la réalité, on a mis en place une ligne bleue qu'on avait désactivée depuis 2014 et qu'on a réactivée en octobre 2023.
Pour qu'on puisse téléphoner,
signaler des faits, pour que les personnes qui ont besoin d'avocats, qui ne savent pas vers qui se tourner, se tournent vers nous parce que nous offrons cette possibilité d'être assisté, d'être représenté par un avocat du début à la fin de la procédure.
Combien de procédures depuis le 7 octobre liées à cette déferlante?
J'ai pas de.
C'est des centaines.
Ouais, c'est des centaines. C'est clairement des centaines. On a atteint dans les périodes les plus intenses jusqu'à près de 60 dossiers traités par jour, en fait, avec à chaque fois des calculs qui sont faits, l'opportunité ou non de déposer des plaintes. On ne choisit pas forcément toujours de judiciariser les dossiers. On est parfois dans une démarche différente. Ça peut être un courrier qu'on adresse au recteur d'une université, ça peut être un courrier qu'on adresse à un employeur dont on sait que des propos à caractère antisémite ont été tenus dans l'enceinte de son établissement.
Vous signalez, vous ne poursuivez pas forcément.
Pas forcément. Pas forcément, c'est pas toujours la meilleure des voies, c'est pas toujours la voie la plus rapide, la plus efficace. Il faut savoir que nos juridictions sont engorgées, on le sait. Notre justice est lente, elle fonctionne pas toujours très bien. On connaît tout ça, puisque nous sommes avocats et nous avons nos propres cabinets par ailleurs. Donc, on voit un peu comment ça se passe dans les autres procédures. Donc, on sait les difficultés de nos magistrats, de nos greffiers. On en tient compte aussi. Et donc, on choisit. On est obligé de sélectionner. Là où on ne fait aucune sélection, c'est pour les personnes physiques qui sont victimes dans leur chair d'actes à caractère antisémite. Là, ça ne se négocie pas. Si la personne souhaite aller en justice, évidemment qu'on y va.
Est-ce que la justice répond vite et bien? Est-ce qu'elle vous entend?
Alors, est-ce qu'elle nous entend? Oui, nous sommes entendus, nous sommes reçus régulièrement, nous avons des échanges avec les magistrats, nous avons des échanges avec les parquetiers, on est dans quelque chose qui est assez fluide, d'une manière générale. Après, est-ce que la justice est assez rapide? Elle a fait des efforts depuis le mois d'octobre 2023. Notre garde des Sceaux avait donné une circulaire demandant à ce qu'il y ait des réponses pénales qui soient plus rapides et plus fermes. C'est vrai qu'on a eu une accélération dans toutes les affaires dites de haine en ligne. Donc tout ce que vous pouvez voir comme acte à caractère antisémite sur les réseaux sociaux, les provocations à la haine, les diffamations à caractère antisémite, les injures à caractère antisémite, tout ce contentieux-là a bénéficié d'une accélération des procédures. En principe, pour traiter un dossier de cette nature, c'est à peu près 2 ans devant les tribunaux. Là, les délais ont été drastiquement raccourcis, puisqu'on est passé à des délais entre 4 et 6 mois, à peu près, pour juger ces affaires. Et même sur certains dossiers, on a pu bénéficier de la procédure accélérée sur Paris, des comparutions dites immédiates, et donc des traitements en 2 mois, à peu près.
Jean-Paul Delescot, secrétaire départemental de la CGT du Nord, vient d'être condamné, 1 an avec sursis, pour apologie du terrorisme. Il avait distribué un tract expliquant que le 7 octobre, c'était la réponse à l'occupation illégale par Israël. C'est une victoire importante pour vous ?
Oui, c'est une jurisprudence importante pour nous. C'est-à-dire, c'est une décision qui a été rendue par ce tribunal qui a été courageux, une décision qui a été particulièrement bien motivée, qui a consisté à expliquer, en fait, dans le corps de la décision que nous venons de recevoir cette semaine, que oui, on ne peut pas présenter les actes du 7 octobre comme des actes de résistance. Et on ne doit pas non plus les présenter sous un jour favorable, comme lorsqu'on essaye de les légitimer, c'est-à-dire lorsqu'on essaye de les expliquer par l'histoire du peuple gazaoui, ou par les exactions qui auraient pu être commises ou non par Israël ou par Tsahal, rien ne peut justifier des actes terroristes. Et lorsque l'on justifie ces actes terroristes-là, notamment par des actes dits de résistance, lorsqu'on les légitime, on commet ce qu'on appelle l'infraction d'apologie du terrorisme. Je rappelle à vos auditeurs que l'apologie du terrorisme n'est plus depuis 4 ans une infraction inscrite dans la loi dite de la presse,
1881,
mais bien dans le code pénal. Donc c'est désormais une infraction pénale totalement indépendante et autonome. Ce qui signifie aussi que le législateur a prévu une peine de prison particulièrement lourde qui va de 5 ans à 7 ans. 5 à 7 ans d'emprisonnement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Lorsque le législateur prévoit une peine aussi lourde, c'est parce qu'il considère que cette infraction est particulièrement grave. Et cette infraction-là, elle a une résonance particulière en France. Vous avez vu, notre préoccupation principale en France, c'est effectivement la prévention des actes terroristes. On a vu que les actes terroristes se sont multipliés. Donc il est important de fixer des limites à ce qu'on a le droit de dire, en public, pas en public d'ailleurs, sur les actes terroristes qui sont commis partout ailleurs dans le monde. Parce que lorsque l'on tient des propos de cette nature, on peut inciter des esprits un peu plus faibles, un peu moins bien construits, à fomenter des projets d'attentat. Et le dernier acte en date, le dernier projet, c'est un mineur de 15 ou 16 ans qui s'est mis en tête d'organiser un attentat.
À Marigny, en Haute-Savoie.
Exactement. Donc on voit bien pourquoi le législateur a prévu cette peine aussi lourde et pourquoi il est important de faire attention aux propos que l'on peut tenir quand on est une personnalité publique ou lorsque l'on est sur les réseaux sociaux et que la parole se démultiplie de manière exponentielle.
L'affaire de Lescaut, cette décision de justice, ça va faire jurisprudence?
Oui, ça va faire jurisprudence. C'est une décision qui nous sera utile dans toutes les autres affaires dans lesquelles nous plaidons. Ce n'est pas la première qui vient condamner de manière ferme des propos qui sont constitutifs de l'infraction d'apologie du terrorisme. Nous avons eu d'autres condamnations auparavant. Nous avons eu la condamnation contre le footballeur Youssef Attal
à Nice.
Nous avons eu une condamnation de l'imam Bocquer également. Les condamnations qui sont tombées, en principe, l'apologie du terrorisme en France, c'est à peu près un an. Un an, c'est le tarif qui est donné par les juridictions depuis le 7 octobre. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Encore une fois, je le répète, il faut mesurer véritablement la portée des propos que l'on peut tenir, que l'on soit encore une fois une personne, le quidam, ou encore plus que lorsqu'on est une personnalité publique.
Là, c'est la CGT, c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. C'est une mesure politique pour vous ?
Une mesure politique, la condamnation ?
La condamnation et votre démarche ?
Non, alors, non, absolument pas. Notre démarche, elle est vraiment pas politique. Notre démarche, on le dit, on le redit à l'OGE, il faut que, quand même le repréciser. D'abord, on est totalement bénévole. Il n'y a pas de salarié chez nous. Il n'y a pas de personne qui perçoit ne serait-ce qu'un euro de tout ce que nous faisons, que ce soit notre présence sur les plateaux, que ce soit les chroniques qu'on fait chez vous, que ce soit les tribunes que l'on peut écrire dans les journaux. Toute cette assistance que nous fournissons aux victimes au quotidien, toutes les plaintes que nous déposons, nous ne nous enrichissons pas avec, nous ne sommes pas payés pour cela, nous le faisons bénévolement. Notre démarche est totalement apolitique, complètement apolitique, nous ne revendiquons aucune étiquette politique et nous attaquons, je le dis bien, en justice, toutes les personnes, quel que soit le bord politique auquel elles appartiennent. Ça peut être de l'extrême droite, ça peut être de l'extrême gauche, ça peut être de l'islam radical, quel que soit le bord politique. Ce qui nous intéresse, c'est le combat contre l'antisémitisme.
Rima Hassan, Mathilde Panot, convoquées par la police pour apologie du terrorisme, en tout cas pour être interrogées. C'est le début d'une procédure similaire à celle de la CGT Nord ?
C'est possible. Ça commence par une audition, ça commence par un dépôt de plainte, ou alors un signalement article 40, et peut-être que c'est le cas pour Mathilde Panot, peut-être que c'est le cas pour Rima Hassan, la procédure le dira par la suite. Pour l'instant, on n'a pas accès à ce type d'information. L'instruction, l'enquête est secrète, donc nous n'avons pas accès. De même que Rima Hassan ou Mathilde Panot n'ont pas accès à ce type d'information. Il y aura une audition qui est prévue dans les prochains jours. Suite à cette audition, le procureur décidera ou non de poursuivre, c'est-à-dire de renvoyer devant une juridiction correctionnelle pour que la personne soit entendue par des magistrats qui décideront, oui ou non, s'il y a lieu de condamner.
S'il y a renvoi, ça veut dire une séance de tribunal dans quoi ? 6 mois, 1 an ?
Ça peut aller plus vite.
Vous vous occupez aussi des otages. On a vu la vidéo de cet otage israélo-américain diffusée cette nuit par le Hamas. Quel est votre travail sur les otages ?
Alors en fait, il y a plusieurs aspects. L'aspect principal, peut-être, c'est d'abord d'avoir constitué toutes ces personnes franco-israéliennes auprès du PNAT, le Pôle National Antiterroriste à Paris, qui est en charge de la procédure d'enquête dite miroir avec la procédure d'instruction qui est en Israël en cours pour comprendre et pour poursuivre les auteurs des attentats du 7 octobre. Donc notre premier rôle a été de les constituer au sein de cette procédure en France, ce que nous avons fait. Le deuxième rôle est de leur permettre d'avoir accès à des indemnisations qui sont versées par les fonds de garantie français, puisque ce sont des ressortissants français. Ils ont la nationalité française, donc ils ont les mêmes droits que toutes les victimes, et on le fait dans tous les attentats, quelle que soit la victime. Quand une victime française est touchée par un attentat dans le reste du monde, il peut se constituer et être indemnisé par ce fonds de garantie. Ensuite, nous sommes aux côtés en fait de ces familles pour leur permettre de faire valoir leurs droits en France, mais également en Israël, avec des homologues avec qui nous travaillons en Israël sur ces dossiers-là. Nous sommes également le relais des demandes des familles d'otages. Nous sommes en charge de la famille Yahalomi. Il y avait eu le jeune Ethan qui a été pris en otage pendant 54 jours, dans des conditions absolument dramatiques, très très difficiles. Ethan est un petit garçon courageux, résilient, courageux, mais c'est très dur, c'est très très dur. Et son papa est encore retenu à Gaza, au Had. Nous accompagnons sa femme, nous accompagnons ses tantes aussi, parce que l'une des otages, la jeune Shirelle, pardon, pas l'une des otages, l'une des membres de cette famille qui est également franco-israélienne, Shirelle, était au festival Nova. Donc voilà, il y a tout cet accompagnement qui se fait autour des victimes. Nous sommes là pour porter leur voix et pour porter leurs demandes.
Dernier aspect de cette déferlante de l'antisémitisme, c'est ce qu'on voit sur les campus aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en France. Sciences Po a été évacuée cette nuit. Est-ce que vous vous occupez aussi de cela ? Est-ce que ça vous inquiète ?
Oui, bien sûr, on s'en occupe. C'est-à-dire que depuis des années, nous écrivons au président d'université pour dénoncer à chaque fois que nous voyons ces dérives. Il n'y a rien de nouveau en fait. Alors là, il y a un emballement, effectivement, post 7 octobre. On a le schéma des universités américaines qui nous est montré en boucle sur les médias. C'est la réalité. Mais en France, c'était à peu près le cas dans les années précédentes. Il y a cet entrisme-là dans nos universités. Il y a nos étudiants juifs qui ont les plus grandes difficultés à suivre leurs cours de manière sereine. Il nous a été rapporté quantité d'anecdotes bien avant le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, c'est devenu invivable pour la majeure partie d'entre eux, et je le dis, il faut une prise de conscience. Aujourd'hui, les tentes, j'ai appris que les tentes à Sciences Po avaient été interdites, c'est très bien. Il ne faut pas perdre de temps là-dessus. Et ça, c'est le message que je passe à nos autorités et au pouvoir public. Soyez extrêmement vigilants, soyez extrêmement réactifs, soyez dans l'action. Pas de commentaires, pas de paroles, des actes.
Muriel Wachnin-Melki, présidente de l'OGE, merci, bonne journée et à bientôt bien sûr sur Radio J.
Merci beaucoup Christophe. Demain, votre invité à 7h45 sera le journaliste et grand reporter Vincent Vintinghem pour son livre Les Défendre Tous, publié aux éditions du Rocher.
Radio J, retrouvez le barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen.
Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité.
Et je suis ravie d'être invitée à Radio J.
Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir.
Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux, donc merci à vous.
À tout à l'heure.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.